9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Au printemps dernier, la décision du gouvernement de confiner toute la population française était passée comme une lettre à la poste. Mais 8 mois plus tard, le reconfinement est une véritable usine à gaz. C'est du Kafka, la tragédie vire à l'absurde. Comment l'expliquer ? Eh bien Antoine Bueno, qui est l'un des meilleurs connaisseurs de notre système politique, mais aussi l'un des plus critiques, est avec nous ce matin. Sur l'élection de Joe Biden, dont nous avons déjà beaucoup parlé hier, nous serons en direct avec le philosophe franco-américain Norman Ajari. Il vit en Pennsylvanie, l'État qui a permis la victoire hier du candidat démocrate. Il y aura ensuite le journaliste de mode Loïc Prigent qui publie « Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge », un nouveau recueil hilarant des brèves de comptoir des gens de la mode, et la violoncelliste Astrid Cyranocian pour son album hommage à Nadia Boulanger. Quasi inconnue en France mais adulée aux États-Unis, Nadia Boulanger a été la professeure de George Gershwin, de Philip Glass, de Leonard Bernstein, de Lalo Schifrin et de Quincy Jones. Bonjour Antoine Bueno.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes conseiller au Sénat, essayiste. Votre dernier livre, c'est Futur, notre avenir de A à Z, un gros livre de plus de 600 pages chez Flammarion. Si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour nous expliquer, sans parti pris, pourquoi le reconfinement est-il en train de virer à la farce. Parce que ça a commencé par le préfet de police, qui avait commencé par interdire à Paris la diffusion de musique sur la voie publique entre 22h et 6h du matin, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Bah oui, c'est sûr.
Puis on nous a interdit de sortir le soir et quelques jours plus tard, on nous a reconfinés. Le gouvernement s'est mis alors à trier entre les produits essentiels et les produits non essentiels, entre les professions autorisées et celles qui ne l'étaient pas, entre les magasins qui avaient le droit d'ouvrir et ceux qui n'avaient pas le droit. Et comme il n'y avait plus de limite à l'improvisation et à son cortège d'absurdités, il a décidé de fermer des rayons entiers de produits interdits à la vente dans des grandes surfaces qui, elles, avaient le droit de rester ouvertes. Et on parle de rétablir le couvre-feu alors qu'on n'a déjà pas le droit de sortir de chez soi toute la journée. Bref, alors que le confinement en mars s'était passé très bien, on a tous obéi.
Ah oui, c'était vraiment bien.
Voilà, là c'est une usine à gaz qui a du mal à se faire respecter. Et cela en dépit du fait que 7 Français sur 10, selon les sondages, étaient favorables au reconfinement il y a 10 jours. Hein. C'est même pas de la mauvaise volonté
non,
des Français au départ.
Hein. Pas du tout. Mais c'est pour ça qu'on va aborder le sujet, si vous le voulez bien, avec beaucoup de modestie. Non pas expliquer, mais tenter d'expliquer. Et je crois qu'il y a une image qui permet de comprendre, je pense que beaucoup d'auditeurs la connaissent, c'est celle des shaddocks. On peut peut-être éclairer la lanterne de ceux qui ne connaissent pas ces petits oiseaux, hein, commentés par Piéplu, qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est de Roussel, me semble-t-il, le dessinateur.
C'était un dessin animé dans les années 60.
Voilà, 60, 70, 80. C'est l'archétype de l'absurde le plus total. Et en fait, ce qui se passe dans les shaddocks, c'est qu'au départ, ils ont un constat qui est un constat rationnel. Par exemple, il y a une épidémie, donc il ne faut plus que les gens puissent propager l'épidémie. À partir de ce constat rationnel, là, on construit ce que vous avez vous-même qualifié d'usine à gaz, tout simplement parce qu'on a fait une toute petite erreur. Il y a un petit grain de sable qui s'est faufilé dans la machine. Et à mon sens, mais c'est pour ça que ça n'est qu'une tentative d'explication, parce qu'en réalité, personne ne sait précisément pourquoi c'est le bordel, à commencer par le gouvernement. À mon sens, peut-être qu'on peut regarder, pour trouver le grain de sable, du côté de la question des libraires.
C'est-à-dire ?
Ah ben c'est encore une fois une tentative d'explication. Ben c'est-à-dire que il y a plusieurs différences entre le précédent confinement dont nous avons tous la nostalgie. Hein. C'est vrai que c'était un grand moment, sauf que quand, comme moi, on a des petits enfants, c'était absolument insupportable. Enfin, dans d'autres cas de figure, ça pouvait être considéré comme un moment rêvé, idyllique. Et donc des différences entre ce confinement-là et celui-ci. Et la grande différence, ou du moins pardon, je vais essayer d'être encore plus nuancé. Le grand point commun, mais qui aurait dû être une différence, c'est celle des libraires, parce que à la fin du précédent confinement, il y avait une conclusion qui semblait être tirée, qui était qu'il fallait, si jamais il y avait un nouveau confinement, mais ça c'est encore un autre sujet, puisque en fait tout le monde est parti en se disant qu'il n'y aurait plus jamais de confinement, qu'il fallait cette fois-ci que les librairies restent ouvertes. Or, elles sont restées fermées. Et c'est ça, finalement, qui a mené au débat complètement absurde sur l'essentiel non essentiel, si vous vous souvenez d'un point de vue chronologique. C'est à partir du moment où on s'est demandé si les livres de Tolstoï étaient non essentiels et la pâte à tartiner chocolatée sans citer aucune marque était essentielle, c'est là que tout a commencé et c'est là que, par exemple, Michel-Édouard Leclerc a pu sortir son tweet absolument hilarant. Je sais que Frédéric, vous l'avez vu, mais tout le monde ne l'a peut-être pas vu, où il listait les produits qui, dans ses magasins, étaient considérés comme essentiels, non essentiels. Alors, évidemment, Michel-Édouard Leclerc, c'est un être facétieux, hein, il s'amuse. Et donc, il avait classé les pyjamas pour les enfants de 2 ans essentiels, mais pour les enfants de 3 ans non essentiels. Après, bon, libre à chacun d'interpréter.
Par exemple, les fours, ils ne peuvent pas les vendre. Les toiles, ils peuvent. Les couverts, ils ne peuvent pas les vendre. Mais les thermomix, ils peuvent. Oui. Effectivement, on est en absurdie.
On est en absurdie,
ça n'a plus aucun rapport avec les mesures sanitaires qu'on était censé prendre. Mais dans ce que vous dites, on a l'impression que, au fond, c'est l'égalitarisme typiquement français qui poserait problème. Dès l'instant où on interdit tout à tout le monde, ça va. C'était un peu le principe du premier confinement. Mais dès l'instant où on commence à faire des exceptions, là, ça ne va plus. Parce que chacun dit, attendez, si lui, il a le droit, moi aussi, je dois avoir le droit.
Alors, effectivement, l'égalitarisme, il a pu jouer un rôle à la fois positif et négatif. Négatif parce que on n'a pas voulu, pour heurter le principe d'égalité, faire de confinement générationnel. Et ça, c'était à la fois un impératif juridique, le risque que, par exemple, une loi qui mentionnerait un confinement générationnel puisse être censurée.
De confiner les plus de 65 ans, par exemple.
Voilà, ou les moins de 25, par exemple. Et donc, pour ne pas faire de confinement générationnel, eh bien, on a fait en réalité 2 confinements générationnels successifs visant des générations différentes. Le confinement du couvre-feu, qui visait évidemment les jeunes, qui sont des êtres totalement inconséquents, irresponsables, et qui osent sortir après 21h, surtout pour se réunir, fumer de la marijuana et consommer de la drogue en buvant beaucoup d'alcool. Bon, ça, tout le monde le sait. Donc, en faisant ce couvre-feu à 21h, eh bien, on stoppait, on visait cette génération-là, les jeunes, tout en se demandant pas s'ils allaient finalement se retrouver à partir de 21h pour passer toute la nuit ensemble. Bon, ça, c'était un premier ciblage, mais qui ne disait pas son nom. Et le second ciblage qui ne dit pas son nom, bah, c'est pour les seniors. Voilà, Macron a été très, très propre, très clair dans sa présentation du nouveau confinement. Sauf peut-être, si on peut se permettre d'être un peu critique, parce qu'il faut aussi raison garder. Hein. Moi, je n'aimerais pas vraiment être à la place de Macron aujourd'hui. Ce n'est pas évident de prendre des décisions, c'est-à-dire de trouver un curseur entre raison économique et raison sanitaire. Je ne sais pas si beaucoup de gens auraient fait mieux. Mais bon, moi, je suis dans ma tour d'ivoire, c'est formidable, je ne suis pas au pouvoir, donc je peux dire n'importe quoi. Donc, ce confinement-là, qui est en réalité le nouveau confinement, un confinement générationnel aussi, mais qui ne veut pas dire son nom, puisque qu'est-ce qu'on nous dit en filigrane, on nous dit qu'à partir du moment où on est quelqu'un de normal, c'est-à-dire quelqu'un d'actif, entre, mettons, 25 et 65 ans, c'est-à-dire qu'on a un travail, on peut à peu près aller travailler. Les autres, circuler, il n'y a rien à voir, ou plutôt ne circulez pas, restez chez vous. C'est ça, le confinement générationnel.
On a l'impression que le gouvernement ne voulait pas reconfiner. Hein. Ah, ça, il pensait que c'était une aberration économique, sociale, et qu'au fond, il a freiné des cas de fer, mais à force que les médecins lui disent que c'était la catastrophe, il a été obligé de prendre des mesures. Les agriculteurs, devant nous nourrir, on ne les confine pas. Les entreprises, devant continuer de travailler, on ne veut pas les contrarier, même quand elles ne veulent pas faire du télétravail. Les écoles et les lycées doivent rester ouverts pour que les parents puissent continuer d'aller travailler ou qu'ils puissent télétravailler en paix. Donc, qu'est-ce qu'on peut fermer pour réduire les interactions sociales et éviter les engorgements des hôpitaux? Eh bien, on a fermé les bars, les théâtres, les cinémas, les restaurants. Et puis, qu'est-ce qui reste? Les petits commerces. On ne va pas fermer les grands commerces parce qu'il faut qu'on continue de s'approvisionner. Donc les petits commerces.
Et c'est l'autre effet égalité. C'est à partir du moment où il y a des exceptions, à partir du moment où il y a une souplesse, il y a quand même beaucoup plus de souplesse aujourd'hui qu'il y a quelques mois au printemps, c'est une évidence. À partir de ce moment-là, le français, il ne supporte pas trop. Hein, c'est le principe d'égalité. Pourquoi les uns et pas les autres? À partir du moment où on fait entrer des exceptions et des effets de seuil, c'est ouvrir la boîte de Pandore et voilà la situation dans laquelle on se trouve.
Mais on a l'impression, Antoine Benoît, que le gouvernement n'avait rien prévu. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas anticipé cette question. Vous qui venez de faire un livre de prospective, là, il y avait zéro prospectiviste au gouvernement. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il a été pris de court, parce qu'à part Didier Raoult, qui avait dit que le virus ne passerait pas l'été, à peu près tous les scientifiques nous annonçaient qu'il y aurait une deuxième vague. Et pourtant, personne dans les hautes sphères de l'administration n'a pris le temps, entre juin et septembre, pour prévoir un plan de reconfinement qui soit raisonnable et pragmatique.
Alors, juste encore une fois, de la modestie, hein, je sors mon livre de prospective, moi, le grand prospectiviste, le jour du reconfinement. C'est vous dire le niveau de vista. Donc, je ne vais pas non plus blâmer le gouvernement. Je pense que c'est assez simple. Hein. Le gouvernement ne voulait pas de reconfinement. C'était TSC, quoi. C'est vraiment tout sauf le confinement. Et on pensait qu'avec toutes les autres mesures, avec cette éducation de la population aux gestes barrières, aux gels hydroalcooliques, aux masques, etc., ça suffirait. Et de fait, ils ont été, en quelque sorte, ils se sont sentis obligés de reconfiner compte tenu de l'évolution des indicateurs. Mais encore aujourd'hui, on peut avoir des interrogations légitimes sur l'utilité du confinement. Quand on voit que certains pays qui n'ont pas confiné du tout, comme les États-Unis, c'est la catastrophe, mais certains autres pays, des pays européens en particulier, qui n'ont pas confiné, ont des niveaux de contamination qui sont comparables à celui de la France. Donc, il y a une vraie incertitude et un mystère sanitaire qui plane au-dessus de tout ça.
Mardi soir, l'Assemblée nationale a refusé de prolonger l'état d'urgence au-delà du 14 décembre, ce qui a rendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, furieux. Tout son énervement est passé sur toutes les radios et sur toutes les télévisions. Et le gouvernement a refait voter, c'est-à-dire qu'il s'est servi d'une procédure rarement utilisée, la réserve de vote, l'article 44 de la Constitution. On le connaît mal, celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Tout à coup, ça ne nous plaît pas, on revote.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Hein. Ça arrive absolument tous les jours, pas forcément selon cette procédure, parce qu'il faut savoir que dans la Constitution française, le gouvernement dispose d'absolument tous les outils qui lui permettent de corriger la moindre vétille qui ne lui convient pas. En général, c'est plutôt ce qu'on appelle des secondes délibérations, c'est-à-dire « Ah, oh, bah, vous vous êtes trompé en votant sur telle ou telle chose, c'est une regrettable erreur, revotez, et puis maintenant vous le faites bien, et dans 100% des cas, l'Assemblée concernée vote dans le bon sens. Enfin, » L'Assemblée concernée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale dont la majorité est raccorde et la même que celle du gouvernement. Donc en fait, il faut bien comprendre que dans ce monde de guerre sanitaire, la raison politique, elle est toujours première, c'est-à-dire que les mesures sanitaires qui sont prises aujourd'hui sont déterminées par notre système institutionnel. La première de ces mesures, on l'a déjà effleurée, mais pas sous cet angle-là, c'est de ne pas faire de confinement générationnel. Je vais le dire autrement. On sait que les personnes de plus de 60 ans sont celles qui votent le plus. Évidemment, dans un cadre électoral, et surtout quand on brigue un second mandat, on est obligé de les ménager, ou en tout cas de faire semblant de les ménager. D'où ce confinement générationnel qui ne dit pas son nom, parce qu'il fallait politiquement pas les cibler. Et moi, je gage, c'est de la politique fiction, on n'en aura jamais la preuve, que si Emmanuel Macron en avait été à son second mandat, donc qu'il ne briguait rien d'autre, qu'il était en fin de carrière politique, peut-être qu'il aurait pris des mesures différentes. Et alors maintenant, pour revenir à votre exemple de Véran, eh bien, c'est exactement ce qui se passe d'habitude. Il n'y a rien de nouveau. L'exécutif a absolument tous les pouvoirs dans le cadre de notre Constitution de 58. C'est comme ça, c'est pas différent.
Et c'est pas plus parce qu'il y a un état d'urgence, un conseil de défense
on
commence à fantasmer en ce moment. L'occurrence, si l'Assemblée veut s'en mêler, on lui dit non.
Et on le voit plus. Et encore, quand je dis qu'on le voit plus, c'est pas vrai. Parce que vous souvenez à chaque fois qu'on utilise le fameux 49.3, peut-être le seul article qui dit quelque chose un tout petit peu aux Français qui observent la politique avec quelques intérêts, à chaque fois que cette procédure est utilisée, qui est une procédure assez normale hein, parmi le panel de tout ce dont dispose le gouvernement, ça fait quand même un petit tollé. Donc à chaque fois qu'il y a des petites crises politiques, on se rend compte qu'on a décidé en 58 de donner tous les pouvoirs à l'exécutif et en particulier au président de la République parce qu'on a aussi cette lecture-là de la Constitution, mais c'est tout à fait normal, hein, on n'est pas dans une situation différente.
Merci Antoine Benoît d'avoir été ce matin en direct avec nous. Notre avenir de A à Z, c'est paru chez Flammarion. On va maintenant en Pennsylvanie retrouver le philosophe Norman Ajari.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadini.
C'est en Pennsylvanie, hier, que Joe Biden a fini par remporter l'élection. Norman Ajari, bonjour, ou plutôt bonne nuit, puisqu'il est 6 heures de moins chez vous. Vous êtes philosophe, vous vivez en Pennsylvanie, vous enseignez à l'université Villanova à Philadelphie et vous êtes l'auteur de « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race à la découverte ». C'est un livre sur la condition noire, sur la philosophie et la notion de dignité. Alors ma première question, c'est où en est cette guerre civile que beaucoup de Français ont annoncé ou du moins redoutaient ici à l'issue de l'élection présidentielle? Il n'y a pas de violence, a priori il n'y a rien.
Bonjour, merci de m'inviter. Où est la guerre civile? Ben, je crois que la guerre civile, elle est essentiellement sur Twitter, ou en tout cas sur les réseaux sociaux du président. Mais par ailleurs, non, pas de violence, quelques petites manifestations par les Trumpistes autour de certains bureaux de vote, quelques rodomontades, quelques bombages de torse, quelques mots plus haut que l'autre, mais en réalité, non, pas de guerre civile, pas de Trump qui menace de s'enfermer dans le bureau ovale sous la menace des armes, etc. Tout ceci ne s'est pas passé aucun des éléments du scénario catastrophe qu'on a construit ne s'est produit, parce que c'est assez étrange, certains commentateurs continuaient à prendre Trump au mot. Personne ne s'est rendu compte qu'en réalité il passait son temps à dire une chose et à faire l'inverse, et on a pris ses menaces au sérieux, mais je pense qu'il n'y avait aucune raison de prendre ses menaces au sérieux. Encore une fois, il continue aujourd'hui, je ne sais pas s'il le fait véritablement jusqu'à la dernière seconde, mais encore il y a quelques heures, il y a une poignée d'heures, il y a 2-3 heures, il continue à clamer sa victoire. Ma foi, voilà, je pense que on sait que ces avocats, quand ils ont été contactés, disaient l'inverse, ils étaient un petit peu plus raisonnables que ses propres médias, Fox News, depuis longtemps d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit parfois. Fox News, depuis un bon moment, savent que la situation de Trump n'est pas gagnée. Enfin voilà, personne, à part Trump lui-même et, comment dire, quelques-uns de ses partisans, de ses militants les plus zélés, mais aussi les plus déconnectés de son équipe et de son appareil, continuent à clamer la victoire.
Alors il y a un mystère, je compte sur vous pour peut-être l'éclairer, c'est le fait que les électeurs noirs américains ont voté pour Donald Trump en plus grand nombre en 2020 qu'en 2016. Ça a augmenté de moitié entre 2016 et 2020. Alors j'ai l'impression que ça en dit long à la fois sur Donald Trump, mais aussi sur Joe Biden et même sur Kamala Harris. Alors comment expliquer ce fait-là?
Oui, alors plusieurs choses. D'une part, les électeurs noirs américains ont tout de même voté pour les démocrates à raison de plus de 4 électeurs sur 5. Donc, autant dire qu'on parle d'une augmentation du nombre de votants noirs pour Trump, mais il faut bien se rendre compte qu'on demeure dans des proportions qui sont de manière considérable acquise aux démocrates. Donc il faut rappeler ça, mais il est vrai que ça bouge un petit peu et ça continue à bouger. En réalité, on voit depuis une vingtaine d'années une augmentation constante du nombre de votants noirs pour les candidats républicains. Donc il faut pas complètement attribuer cela à Trump, et en l'espèce, je pense effectivement aussi qu'on peut l'attribuer au comportement, à l'attitude du Parti démocrate, qui ici a choisi 2 candidats qui sont défavorablement connus en réalité d'une certaine proportion de l'électorat noir, de l'électorat africain-américain. D'abord Joe Biden, parce que même si on insiste parfois sur son rôle favorable dans la lutte pour les droits civiques, il ne faut pas oublier qu'après ça, dans une période, disons, de reflux du militantisme noir, en 1994, sous la présidence de M. Clinton, il avait participé à faire passer une loi terrible qui a mené à l'incarcération de masse aux États-Unis, qui a mené à surarmer les polices locales états-uniennes en les inondant de surplus de l'armée, d'armes de guerre, etc., qui a poussé pour ce qu'on appelle la politique des super-prédateurs, c'est-à-dire que on a d'ailleurs des discours qui ont refait surface là-dessus, dans son rôle de sénateur, exigé, argumenté en faveur d'une politique qui était dévastatrice dans les communautés africaines-américaines et également hispaniques, qui consiste à accepter ou à encourager même les peines de prison à perpétuité pour les mineurs. Peines de prison à perpétuité sans remise de peine pour les mineurs, qui a d'ailleurs été déclaré inconstitutionnel il y a quelques années, après avoir commis de nombreux... après avoir décimé la population africaine-américaine. Kamala Harris, la possible vice-présidente de M. Biden, quant à elle, a été procureure générale dans l'État de Californie et a eu une politique extrêmement répressive pour ces populations-là. Et donc ça a amené, c'est ça la chose terrible, ça a amené de nombreuses personnes qui étaient soit des mineurs, de nombreuses personnes qui ont commis des crimes non violents mais qui les ont commis 3 fois, à se retrouver en prison à perpétuité, c'est-à-dire à subir des peines absolument disproportionnées par rapport soit à leur personne, à leur personnalité, à leur rationalité à l'époque des faits, soit tout simplement parce qu'elles ont vendu de la drogue ou qu'elles ont commis des cambriolages non violents.
Norman Ajari,
qui ne devrait pas mener à une peine à perpétuité, oui.
Norman Ajari, pardon de vous interrompre, vous avez dit la possible vice-présidente en parlant de Kamala Harris, mais ça y est, c'est fait maintenant, elle est vice-présidente, il faut vous y habituer.
Je ne me suis pas encore... Je ne me suis pas encore mis à jour après quatre jours d'attente à regarder tout le temps.
Il nous reste une minute, mais j'ai envie de vous poser la question. On dit qu'aux États-Unis, un peu comme en France, en fait, on reproche l'abandon de l'électorat populaire par les nouveaux démocrates aux États-Unis, par la gauche en France, qui serait plus soucieux des combats culturels, de la diversité, que de critiquer un système économique qui, au fond, leur bénéficie. Vous pensez que c'est le cas ?
Je pense que c'est le cas, oui. Je pense que c'est le cas, évidemment. Je pense que c'est le cas pour les républicains aussi bien que les démocrates, parce que les deux jouent cette carte-là. On dit parfois que le Parti démocrate, c'est le parti de la politique culturelle, mais les républicains en jouent également. Mais il est vrai que tout le discours sur Kamala Harris, tout le discours sur la première femme noire vice-présidente, etc., participe de cela, qu'on oublie son rôle politique, qu'on oublie la manière dont elle a nui aux communautés, aux minorités en Californie lorsqu'elle était procureure. Je pense qu'effectivement, il y a cette dimension-là et qui effectivement est renforcée par le fait que Biden, étonnamment, puisqu'il était quand même le vice-président d'Obama, puisqu'il était tout de même celui qui était sur le ticket du healthcare universel, eh bien, ma foi, Biden a dit cette fois, il ne signerait jamais aucune loi qui contient cette assurance maladie universelle si elle venait à arriver sur son bureau.
Merci. Merci Norman Ajari, je vais vous laisser vous retourner vous coucher. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre La dignité ou la mort s'est paru aux éditions de La Découverte.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour Loïc Prigent.
Bonjour.
Votre métier, c'est d'écouter parler les gens de la mode. Il y a 4 ans, vous avez publié « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Aujourd'hui, vous sortez la suite. « Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge ». Les deux sont en poche dans les collections Point. Ce sont les brefs de comptoir des gens de la mode. Sauf que c'est rarement au comptoir qu'ils les prononcent.
Oui, il n'y a pas de comptoir à la mode. La mode est un... Le champagne coule à flot sans qu'il y ait de comptoir, ça qui est bien.
Oui, c'est ça. Donc vous les avez entendus où ? Devant les défilés, pendant les séances de photos, dans les arrières-salles des marques de mode, parmi les brodeuses ou...
Il y en a chez les brodeuses. Je ne fais pas beaucoup de séances photos, mais plus les défilés, autour des défilés aussi, donc dans les studios, aux essayages... Après, il y a aussi avec les collègues dans la voiture entre deux défilés. Voilà. Il y a aussi quelques amis parisiens hein, qui s'y glissent et tout ça.
Alors, il y en a une qui est formidable, c'est « J'avais tellement faim, j'ai oublié d'instagrammer mon repas ».
Ouais, elle est bien celle-là.
Ça tourne généralement autour de la beauté, du sexe, de l'argent, de la création et d'Instagram. Instagram, c'est devenu central dans les métiers de la mode.
Ah ouais, c'est incroyable. C'est vraiment... Je pense que si on leur propose de l'argent ou des abonnés sur Instagram, ils prennent les abonnés sur Instagram en ce moment.
Oui.
C'est vraiment la tulipe en Hollande au XVIIe siècle, Instagram en ce moment.
Alors, il y en a des très poétiques. L'encre du stylo est faite à partir de la pollution de Mumbai. Il fallait y penser.
Ah ouais. En ce moment, tout le monde cherche tellement à se différencier que les arguments de vente sont devenus vraiment, vraiment toxiques, on va dire.
Il y a beaucoup de méchanceté. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit que son chirurgien esthétique lui a cassé les murs porteurs.
Ouais, c'est dur. Ouais.
Ses talons sont plus longs que ses mini-jupes.
Oui, j'avais entendu, il y a plus de talons que de talents aussi. Ouais.
Ou mon assistante me regarde comme si on lui demandait de manger de la terre.
Les assistantes sont une grande source d'incompréhension de la part de ceux qui les embauchent et de la part des assistants eux-mêmes face à ceux qui les embauchent en général.
Il faut dire qu'il y a parfois de grandes différences. Il y a quelqu'un qui dit « Son assistante est hyper jeune, je les ai vus ensemble, on dirait la Toussaint assise à côté du 1er mai ».
Ouais, elle était très en forme ce jour-là.
Mais il y a une vraie lucidité, mais on se demande s'ils le font exprès.
C'est ça qui est l'avantage et l'inconvénient du livre, c'est que de les poser à l'écrit, c'est qu'on ne sait plus trop si ça a été dit comme quelque chose d'inconscient ou comme quelque chose de cynique ou comme une bonne blague où tout le monde a ri et on savait tous que c'était exagéré. Et voilà, tout le fait de les écrire les met dans un espèce d'aplat qui les rend toutes vagues et abstraites. Et c'est ça où on se demande, tiens, mince, est-ce qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent ?
Et une dont on se dit que c'est forcément au premier degré, c'est quelqu'un qui dit « Heureusement qu'il a des lunettes pour lui donner de la personnalité ». On sait bien que les lunettes sont souvent faites pour nous donner de la personnalité. C'est d'ailleurs un argument de vente des gens de la mode pour nous vendre des lunettes.
Exactement. Et souvent, on voit des mannequins avec des lunettes sans verre. Ça c'est arrivé. Hein.
Ah oui?
Ça a été une tendance. Ah oui, c'était, ça donnait du chien. Ah oui, à ce point-là, oui. Ah mais à ce point-là, ça pourrait être le titre du troisième. À ce point, ah mais oui, à ce point-là.
Vous qui êtes un journaliste de mode particulièrement averti, Loïc Prigent, c'est quoi la mode en 2020?
La mode en 2020, c'est merci la Chine. Voilà, parce que grâce à la Chine, la machine tourne encore. Et aussi, merci le commerce en ligne qui aussi permet à plein de petites marques qui dépendaient beaucoup des boutiques quoi, pour survivre. Et grâce au commerce en ligne, ils ont pu ne pas faire faillite. Donc la mode en 2020, c'est beaucoup de réinvention. Ils se remettent vachement en question sur la pollution, sur la diversité, l'inclusivité, toutes ces choses-là. Et aussi une énorme remise en question économique parce que la pandémie dans les régions où elle sévit empêche vraiment le commerce. Quoi.
Mais alors c'est drôle parce que je vous demande c'est quoi la mode en 2020 et vous ne me répondez pas sur la forme. On sait bien encore aujourd'hui ce qu'était la mode des années 60 ou la mode des années 70. On a l'impression que la mode des années 2000, on n'arrive pas à la percevoir. Au fond, on a l'impression que c'est toutes les modes à la fois.
Là, quand même, on arrive à distinguer quelque chose où il y a des formes qui s'élargissent. Les matières, on va vers des trucs en lin. On sait que les couleurs comme le rose et le beige sont en train de devenir énormément marquantes. Non, il y a quand même... Et puis, il y a des marques qui, quand même, imposent des styles et tout, quand même, aux autres.
Les grands couturiers ont été remplacés par les stylistes. Quelle est la différence exactement?
C'est une histoire de patience, j'imagine. Un grand couturier, normalement, il dessine sa robe au mois de mai. Il n'est pas surpris qu'elle n'aboutisse qu'au mois de juillet parce que une armada de couturières, de brodeuses, de brodeurs, de fleuristes plumassières ont travaillé à perfectionner la chose, à faire d'abord des toiles, après à faire une belle robe, à l'essayer une douzaine de fois avant qu'elle soit parfaite. Alors qu'un styliste, il donne une idée et souvent, ils écrivent des mots sur des post-it. Alors, ça peut être oreiller. Et ils s'attendent à ce que, à la fin de l'après-midi, on vous ait pondu 60 looks à partir de cette idée-là. Quoi.
Par exemple, cette phrase je crois, ouvre le livre d'ailleurs, c'est « Si vous me demandez ce que j'aurais aimé avoir inventé, je dirais la chemise blanche », c'est une phrase de styliste, ça n'est pas une phrase de grand couturier.
C'était une phrase de grand couturier, parce que je crois que c'est Karl Lagerfeld qui l'avait dite.
Ah oui. Vous avez remarqué.
Ouais. Donc, mais lui, il était les deux. Il était styliste et couturier.
Ce qui est passionnant dans votre livre, Loïc Prigent, c'est qu'avec les yeux des gens de la mode, on comprend beaucoup mieux une personnalité comme celle de Donald Trump. Il y a plein de phrases qui lui correspondent parfaitement. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Pour la nouvelle campagne, on cherche une icône anti-système ». Ça, c'est typiquement trumpien.
Totalement trumpien. Totalement, ouais, c'est clair.
On s'aperçoit au fond que ça n'est pas un accident, c'est un prototype, Donald Trump. Quelqu'un dit « il est génial, mais il a du succès et vous, les Français, vous détestez le succès, vous aimez les gens géniaux uniquement s'ils perdent ».
C'est vrai que Trump, dans son côté zéro filtre, je rentre dans l'art et tout ça, oui, il aurait pu être un très bon styliste de mode. Ouais.
Oui, puis
on aurait été mal sapé, mais
le beau, le bon.
On aurait habillé sans aimer. On en aurait acheté plein, je pense. On n'aurait même pas eu le choix.
Le beau, le bon goût, ce ne sont plus des critères dans la mode, comme ça n'est plus des critères non plus dans l'art contemporain. En fait, ça a été remplacé par la transgression et des choses comme ça.
On est revenu à quelque chose de fait que la mode se vend beaucoup au filtre par les réseaux sociaux. On est quand même revenu à des choses très très séduisantes. Il y a toujours une marge de créateurs de mode qui cherchent à vous faire ressembler à des champignons atomiques et qui arrivent hyper bien. Mais c'est plus forcément ce qui vend. Et la génération de journalistes qui défendaient ça est partie faire de la poterie dans les Cévennes. Donc là, c'est des choses quand même beaucoup, beaucoup plus commerciales et portables qui sont au pinacle en ce moment quand même.
Quelqu'un dit dans votre livre, il est né avec une Ferrari dans la bouche. On pourrait le dire de Donald Trump, ça.
Tout à fait, ou de son fils, ouais. C'est vrai. Ou de ses enfants, enfin. Baron est clairement né avec une énorme Ferrari dans la bouche.
Au fond, ça nous en dit long sur l'époque, votre livre, pas seulement sur les gens de la mode.
Parce que les gens de la mode sont dans l'époque, hein. Ce sont des gens qui ont les papilles très ouvertes, les chakras très ouverts, qui sont des capteurs quoi, de plein de choses et qui nous révèlent plein de choses de nous, de nos inconscients, nos excès, notre folie. C'est juste qu'ils l'articulent peut-être mieux parce qu'ils passent leur temps à articuler un peu de l'hystérie, quoi.
Votre livre, le nouveau, s'intitule donc « Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge » et il est paru dans la collection Point, directement en poche.
Merci beaucoup, c'était trop cool de vous parler.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Astrid Cyranocian, bonjour, vous êtes violoncelliste, votre violoncelle est d'ailleurs posée à côté de vous, c'est un Ruggieri, de quelle époque? 1676,
c'est 1676, exactement.
Vous sortez un nouvel album avec Daniel Barenboim et Nathanaël Gouin, intitulé « Dire Mademoiselle », c'est un tribut à Nadia Boulanger qui a été un grand professeur, certainement l'un des plus influents du XXe siècle parmi ses élèves. Il n'y a pas eu que des musiciens classiques comme Igor Stravinsky ou Daniel Barenboim, il y a eu aussi Georges Gershwin, Leonard Bernstein, Philippe Glass, Pierre Henry, Lalo Schifrin, Vladimir Kosma, Michel Legrand, Astor Piazzolla ou Quincy Jones. Qu'est-ce qu'elle avait de si extraordinaire, Nadia Boulanger ?
Je pense qu'elle avait une exigence vis-à-vis de la musique qui attirait énormément d'élèves de par les quatre coins du monde. Et puis, elle était une personnalité fascinante. Je pense que le fait que ce soit une femme, une dame qui avait un mode de vie tout à fait particulier et moderne. Puis surtout, elle avait un environnement parisien qui, je pense, attirait à l'époque beaucoup de musiciens et d'étudiants qui voulaient vraiment s'imprégner d'une culture et d'une richesse culturelle comme il pouvait y avoir à Paris à cette époque.
Elle était née en 1887. Elle est morte très âgée, à 92 ans, en 1979. Elle avait été compositrice. On va vous écouter, vous et Daniel Barenboim, d'ailleurs, interpréter la pièce numéro 1 pour violoncelle et piano qu'elle avait composée au tout début de sa vie.
Oui.
Pourquoi tant d'Américains ont-ils suivi les cours de Nadia Boulanger ? On a l'impression que toute la musique américaine du XXe siècle, c'était de donner rendez-vous dans son conservatoire.
Eh bien, je pense parce qu'elle a eu l'intelligence pendant la Première Guerre mondiale de vouloir créer des liens entre les Américains et les Français, notamment en faisant des concerts de charité pour venir en aide aux musiciens, à la fois français et américains. Donc elle a vraiment créé un rapprochement et puis elle est devenue très populaire puisqu'elle a voyagé aux États-Unis pour aller donner des cours.
Là-bas qu'ici.
Ah, elle est idolâtrée aux États-Unis, c'est assez impressionnant. La Juilliard School, c'est une déesse vivante. D'ailleurs, c'est très étonnant pour eux quand je leur raconte qu'il n'y a pas de musée ou quoi que ce soit à Paris qui lui rend hommage. Voilà, c'est vraiment. Nul n'est prophète dans son pays. C'est vraiment une belle illustration avec Nadia Boulanger.
Astrid Cyranocian, quand je vous regarde et que je vois votre violoncelle à côté de vous, je ne peux pas m'empêcher de demander pourquoi le violoncelle ?
Alors, j'ai commencé par le violon à partir de mes 2 ans. Et puis, à l'âge de 4 ans, j'ai simplement voulu être assise. Donc, j'ai demandé à mes parents un gros violon assise. Voilà, je n'avais absolument aucune ambition de rester debout et jouer du violon et d'avoir mal au cou. Donc, voilà, ça a été un choix finalement que je n'ai jamais regretté, mais voilà, qui était...
On dit que c'est l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine. Vous le voyez comme ça vous l'entendez comme ça, vous aussi?
Oui, je pense qu'il a une certaine douceur. Après, il a une amplitude, il a des graves, par exemple, que moi, je ne possède pas dans ma voix. Mais en effet, il a une rondeur, une chaleur qui touche peut-être un peu plus que le violon, qui peut être un petit peu trop aigu. Et puis la contrebasse, par exemple, qui peut être un peu trop grave. Mais l'amplitude et la tessiture du violoncelle, en effet, est très proche. Et les vibrations, vraiment... peuvent être très proches de la voix humaine et de l'humain.
Mais il a une autre particularité, c'est qu'on l'a entre ses jambes. Oui. Ça doit être très spécial d'avoir son instrument de musique entre ses jambes.
Alors, je n'ai jamais eu autre chose comme instrument à jouer que le violoncelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu difficile pour moi d'imaginer de jouer un instrument qui soit posé entre mes lèvres ou autre. Mais oui, c'est très... Vraiment, la position est... et très tendre en fait finalement entre le violoncelle et l'instrumentiste. Et puis c'est vrai que ça crée forcément un lien vu qu'il est grand. Et voilà, notre corps, enfin en tant que violoncelliste, est vraiment imprégné de l'instrument lui-même.
Mais quand on joue d'un instrument aussi précieux que le vôtre, je rappelle, il date de 1676. Oui. On vous l'a prêté en plus. J'imagine que vous ne vous en séparez jamais. Les violonistes disent toujours avoir leur violon près d'eux quand ils dorment. Vous, j'imagine que c'est votre violoncelle. Quand vous prenez l'avion, vous lui payez sa place.
Exactement.
Parce qu'il est obligé de voyager à côté de vous.
Oui, c'est mon vrai compagnon de vie. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas l'avoir près de moi pour dormir. Ou alors, voilà, c'est vraiment un membre à part de mon corps.
On va écouter un extrait des Parapluies de Cherbourg qui figure également sur ce disque. Michel Legrand avait été un élève de Nadia Boulanger. Vous savez ce qu'il disait, Michel Legrand, il l'a raconté dans son... Il parle beaucoup de Nadia Boulanger dans son autobiographie, puis il en parlait beaucoup de toute façon, et avec elle, il a appris la musique classique, hein, vraiment. Et il disait... Et puis tout à coup, il a découvert le jazz à la salle Pleyel, il a découvert le bebop, et tout à coup, il se rend compte de la différence. C'est qu'au fond, Nadia Boulanger lui a enseigné une musique qu'il qualifie d'angélique, la musique classique, et que le jazz, lui, est diabolique.
Oui.
Et au fond, c'est comment combiner les deux qui va être la question qui va sous-tendre toute sa vie de compositeur.
Exactement, et puis je pense que l'intelligence de Nadia Boulanger a été de ne jamais le brimer, ne jamais l'empêcher d'aller vers vraiment l'expression musicale qui l'attirait. Elle n'était pas forcément fan de jazz, n'était pas forcément fan non plus de comédie musicale, donc elle n'allait pas forcément à des concerts de jazz ou autre, mais elle n'a jamais brimé les élèves qu'elle a eu de vraiment s'exprimer, mais toujours en leur imposant une exigence pour qu'ils vraiment réussissent à donner le meilleur d'eux-mêmes en musique et dans les domaines qu'ils avaient choisis.
Alors un autre élève de Nadia Boulanger, et pas des moindres, c'est Quincy Jones. On écoute, vous avez repris sur cet album Soul Bossa. Alors c'est à la fois de la bossa nova et du jazz. Pas facile, on vous écoute. Quincy Jones, bien avant de produire Thriller, hein, l'album de Michael Jackson qui deviendra l'album le plus vendu de tous les temps, il faisait du jazz, c'était un grand chef d'orchestre, un grand arrangeur, il a été le premier noir à composer des musiques de films pour Hollywood, mais on ne lui laissait pas arranger les cordes, les violons, tout ça, on disait que les noirs n'y entendaient rien. Alors il est venu se former chez Nadia Boulanger.
Exactement, c'est émouvant en fait de se dire qu'à l'époque les Afro-Américains n'avaient pas le droit et n'avaient pas accès aux études pour pouvoir orchestré, vraiment, donc c'est très touchant aussi de se dire qu'il est venu voir une femme à Paris, Nadia Boulanger, pour se perfectionner et apprendre. Voilà, c'est partie de liberté qu'il y avait en France qui n'avait pas aux États-Unis.
Et comme il était génial, après, il a arrangé les cordes comme personne.
Exactement.
C'est difficile, j'imagine, de jouer du jazz pour vous, Astrid, non ?
Eh bien, disons que quand on est musicien classique, on n'est pas formé à ça. C'est une formation d'improviser, ça s'apprend, évidemment. Mais moi, le challenge que j'ai voulu relever avec Nathanaël Gouin, c'est d'arranger et puis de montrer qu'avec des instruments très anciens, à savoir un violoncelle du XVIIe siècle et un piano, des instruments vraiment très classiques, on pouvait également jouer autre chose que de la musique purement classique et savante. Et je pense que c'est une ouverture d'esprit que Nadia Boulanger aurait sûrement appréciée.
Dire mademoiselle, c'est comme ça qu'on l'appelait. Hein.
Oui.
Nadia Boulanger, c'est donc un tribut à Nadia Boulanger que vous avez réalisé avec Daniel Barenboim et Nathanaël Gouin. Et ça vient de sortir. Merci Astrid.
Merci à vous.
Cyrano Sion.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain après le flash. Ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Michaël Darmon, votre invité, c'est Jean-Gabriel Attal.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement mousquetaire du macronisme, la fin du mandat sous le haut patronage du virus.
Bonne émission.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.